ta génération, l'époque dans laquelle t'es né, t'as eu de la chance. Je dis oui, bien sûr, mais tous les gens de mon lycée à l'époque, ils avaient la même chance que moi. Et ils en ont rien fait.
Bienvenue sur Copywriting Game. Je suis Victor Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine, je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting. Je vous partage leur parcours, leur process et leurs réflexions. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Aujourd'hui, j'accueille Manoa. Vous le connaissez peut-être pas et pourtant, il est fort probable que vous ayez déjà vu l'un de ses contenus. Notamment parce qu'il est derrière le compte Fortumedia, qui a plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Manoa, il a fait son premier million à 19 ans, il a commencé par du dropshipping, et aujourd'hui il vend des infoproduits sur internet. Le tout sans jamais montrer son visage. On va parler business en ligne, infoprenariat, formation et création de contenu. Et on va aussi échanger sur certains sujets sensibles encore jamais abordés sur le podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Ok, donc tu t'es lancé hyper jeune dans le business en ligne, t'as roulé ta bosse, on va dire, sur internet, t'as fait pas mal de trucs différents, et du coup on en arrive à que t'as créé Fortumedia. Donc t'avais quel âge quand t'as créé Fortumedia?
Je devais avoir 17 ans, c'était donc en 2019.
Ok, tu peux nous resituer au niveau des chiffres là aujourd'hui? Fortumedia, ça représente quoi sur Insta?
Au niveau des chiffres, c'est 500 000 abonnés cumulés. Il y a Fortumedia qui a 110 000, il y a deux autres comptes qu'on possède qui, au total additionné, atteignent les 500K. On prend à peu près 1 000-1 500 abonnés par jour sur le réseau entier. Et en termes de chiffre d'affaires, c'est aux alentours de 60 000 euros par mois, sans qu'on ait de publicité. Donc forcément, ça réduit drastiquement les frais. Et en termes de vues, ça doit être au total, c'est peut-être du 80 millions par mois à peu près, si on cumule les trois comptes.
C'est énorme. Et du coup, le chiffre d'affaires, ça vient de la vente de formation.
Ouais, la vente de formation, d'accompagnement et de séminaires.
Ok, oui, parce qu'on en a, parlé. Du coup, tu lances des séminaires, t'en fais une fois par an à peu près les séminaires, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Là, je l'ai fait beaucoup plus tôt que d'habitude. Normalement, je le fais en août. Et c'est peut-être une erreur de ma part aussi de le faire aussi tôt. C'est parce que le dernier était vraiment exceptionnel et je me suis dit, il faut absolument qu'on en fasse un encore plus grandiose, etc. Mais c'est vrai que février, je me suis peut-être trompé sur la période. C'est pas grave. J'apprendrai de cette erreur-là. Mais ouais, du coup, on en avait fait un à Théoul en août dernier. Et là, donc, celui qui arrive le 22.
Et c'est dans un château, c'est ça?
C'est ça, à Bouffémont, donc à 40 minutes de Paris. C'est un immense château qui vaut, je sais plus, 2-3 millions, mais qui est un truc absolument grandiose. Et on voulait un petit peu cet aspect mondain, de la haute société, entre guillemets. On voulait vraiment un beau lieu pour justement se différencier. On en parlait en off tout à l'heure, mais des séminaires un petit peu cheap, bas de gamme, où on te facture des milliers d'euros, si ce n'est même parfois des dizaines de milliers d'euros, et tu te retrouves dans une salle de cours avec des tables en U devant un mec qui te fait des PowerPoint, quoi. On voulait absolument éviter ça. On joue beaucoup là-dessus, on investit beaucoup là-dessus, que l'expérience soit top, tu vois. Au-delà du réseau, des connaissances, etc., évidemment, on veut que l'expérience soit top, et c'est aussi en termes de... c'est intéressé de notre part, tu vois, en termes d'image, en termes de retour sur investissement. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Puisque je l'avais expliqué dans un podcast, en fait, les séminaires ne sont pas rentables à l'instant T. En termes de chiffre d'affaires, on dépense beaucoup plus que ce qu'on rentre, mais c'est en termes d'image, de notoriété et de crédibilité que ça nous rapporte.
Oui, et puis en termes de personal branding, en termes de se différencier par rapport à la concurrence, c'est sûr qu'on en parlait un peu en off, il n'y a pas grand monde qui fait des séminaires avec un tel niveau d'investissement pour les entrepreneurs. En tout cas, sur l'écosystème français, je vois pas de type de séminaire équivalent. Après, peut-être que je suis pas assez la cible, je sais pas.
Non, en France, il n'y a personne. C'est au maximum, on loue une salle à 300 balles la journée et puis on te donne une bouteille d'Evian, tu vois. Mais, mais nous, vraiment, enfin, c'est, je pense, une forme de respect quand les gens payent cher, même si c'est un investissement, tu vois, qu'ils vont rentabiliser de par les connaissances, le réseau surtout et avant tout, qu'ils vont acquérir durant le séminaire. En soi, l'expérience, pour moi, c'est primordial. Et puis, pareil, il faut aussi rendre ça instagrammable. On a fait venir une équipe de vidéo qui va être chargée de capturer, enfin, il y en a même deux, de capturer tout l'événement. Il y a des photographes et on joue vraiment sur cet aspect instagrammable pour qu'il y ait un effet waouh, tu vois.
Ouais. Bah là, clairement, l'effet waouh, il va être au rendez-vous. Rappelle-moi, ça t'a coûté combien en tout le séminaire là pour le château de Bouffémont?
Juste la réservation du château sur 5 jours, c'était de l'ordre de 26 000 euros, je crois. Et puis ensuite, entre l'équipe de production, la location de la Porsche, le traiteur, etc., je pense qu'on va être facilement aux 40 000 euros.
Et la place la moins chère pour venir au séminaire?
C'est 1005 pour la journée du 25 février, qui est la plus importante en soi, là où il y a tout le monde, toutes les conférences, toutes les interventions. Et derrière, on a une soirée networking avec une soirée à thème, etc. Pour le réseau, mais aussi pour passer un bon moment, quoi.
Et ouais, toujours dans cette optique de se différencier, est-ce que tu trouves que le fait de pas montrer ton visage, c'est un élément différenciant par rapport à ce qu'on peut voir dans le business en ligne aujourd'hui?
Bah, c'est un élément différenciant, oui, c'est sûr, parce que je pense vraiment être le seul entrepreneur qu'on suit véritablement. Tu vois, tu peux suivre une page de motivation, mais il y a suivre, c'est-à-dire être abonné, et suivre, c'est-à-dire être attentif, regarder régulièrement, suivre, être intéressé, etc. Et je pense être la seule page Instagram, entre guillemets, le seul entrepreneur qui ne montre pas son visage, que autant de gens suivent réellement. Donc oui, c'est un élément différenciant et aussi ça prouve, en fait, je prouve ce que je dis. C'est-à-dire que le programme phare, c'est Instagram Empire et c'est comment vivre d'Instagram sans montrer son visage. C'est très bien un mec qui dit oui, comment vivre d'Instagram. Alors moi, je montre mon visage, mais en fait, c'est pas pareil. Tu vois, c'est quand même assez cohérent, je pense. Le fait que j'ai pu faire mon premier million sans montrer mon visage, ça veut dire que je sais de quoi je parle. Quand je te fais la promesse d'apprendre à te, vivre d'Instagram sans montrer ton visage et que je l'ai fait auparavant, c'est quand même plus cohérent. Donc oui, je pense que c'est un élément différenciant qui me sort de la masse parce que je sais que énormément de mes élèves, des entrepreneurs avec lesquels je collabore, tiennent à ne pas forcément se montrer sur Internet.
Est-ce que tu penses que ça t'a bloqué à des moments pour vendre ou pas forcément?
Je pense qu'il y en a forcément qui ont dû être un petit peu hésitants à l'idée d'investir chez quelqu'un qui ne voit pas. Mais je pense que, in fine, en fait, tu peux vachement compenser par la régularité, par la confiance que tu instaures, par la valeur que tu délivres dans tes contenus. Au final, la personne qui montre pas son visage, mais qui t'a fait 900 emails, qui t'a fait 300 podcasts, des milliers de stories, de posts, etc., même si elle montre pas son visage, tu lui fais quand même plus confiance que le mec qui montre son visage. Mais je sais pas si tu connais le mec là, je crois que c'est Vincent Wales ou un truc comme ça, un trader sur Insta qu'on voit partout, qui est vachement caricaturé, et qui dit « si j'en suis ici aujourd'hui, c'est grâce au trading ». Et lui, tu vois, tout le monde connaît son visage, mais tu lui fais pas confiance pour autant. Donc, je pense que les gens qui sont très hésitants et que ça freine dans l'achat, dans l'investissement, mais je pense que ceux qui sont vraiment intéressés, in fine, ça les dérange pas tant que ça.
Est-ce que tu as peur par rapport à, là, on en parlait, le TEDx de mars, est-ce que tu as peur de, je sais pas, vu que c'est quand même un truc depuis 3 ans, tu caches ton visage, là, tu vas le révéler dans un événement qui va être pas mal visionné, je suppose. Est-ce que t'as des inquiétudes par rapport à ça ou non, t'es confiant?
Ça serait mentir que de dire je suis extrêmement à l'aise, etc. Moi, je suis quelqu'un de nature très introverti de base, même si je peux paraître extrêmement confiant à l'oral, par exemple, et à l'aise dans des contenus audio, dans des interviews même, etc. On est toujours en comité restreint. Et moi, parler à quelqu'un, ça me va. Parler à un écran, ça me va. Parler à l'écrit, ça me va très bien. C'est vrai que parler à l'oral devant une salle remplie de gens, je l'ai jamais fait. Et oui, j'ai forcément une appréhension, un stress. Et ça serait mentir que de dire le contraire. Tu vois, les gens qui disent, ouais, moi, je vais faire un truc que j'ai jamais fait auparavant, mais je suis extrêmement confiant. C'est pas vrai. Mais après, avec de la préparation, voilà, je vais maîtriser mon sujet. C'est pareil, un face reveal qui est contrôlé, qui est maîtrisé. Donc, je préfère largement ça, c'est-à-dire un événement qui, oui, certes, va me stresser un peu, je vais apprendre un petit peu, mais que j'aurai le temps de préparer, que j'aurai le temps de faire, de refaire, de répéter, plutôt que quelque chose qui me tomberait dessus. Et là, je n'aurai pas le temps de préparer, je ne saurais pas comment réagir, etc. Donc, oui, j'ai une appréhension, mais ça va le faire.
Tu as commencé à bosser le TEDx?
Pas encore, c'est dans moins d'un mois et je n'ai absolument rien préparé. J'ai le titre, c'est déjà ça, mais c'est comme les formations, en fait. Au final, quand tu trouves le titre et la ligne éditoriale principale, le fil rouge, le reste, ça vient assez facilement. Surtout si c'est un sujet que tu maîtrises vraiment.
C'est quand le TEDx?
C'est début mars.
Tu nous partages le titre?
Alors, je ne sais pas si j'ai le droit. Le thème, c'est la chance. Mais je ne sais pas si j'ai le droit parce qu'ils ne m'ont pas encore annoncé en tant que speaker. Et je ne sais pas si pour l'instant, j'ai le droit.
Ok. Bon, après, de toute façon, ça sortira forcément après début mars.
Oui, je le partagerai de toute façon.
Ok, trop intéressant, la chance. D'ailleurs, tu as commencé ce podcast en disant qu'il fallait forcément une part de chance dans la vie d'un entrepreneur. Tu dirais que toi, la chance, elle a joué un rôle dans ton parcours?
Bien sûr, mais tout entrepreneur qui se respecte sait le reconnaître. Et ça n'enlève à rien au mérite que tu as, tu vois. Tu peux tout à fait admettre qu'il y a une part de chance et quand même t'être arraché le cul pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent « non, la chance ». Et même moi, j'ai eu ce discours prédominant pendant super longtemps. « Mais la chance n'existe pas. » hein. Si, il y a quand même une part de hasard. Il y a aussi la chance de naissance, même si personne ne va en entendre parler parce que c'est pas très méritocratique. Ouais, on est né en France. Moi, je suis fils de fonctionnaire. Donc, même si ça m'a pas appris à entreprendre, ça m'a donné de bonnes bases cognitives, ça m'a donné bah voilà, une enfance qui était propice à ce que je me développe correctement.
Une éducation, quoi.
Bah voilà, bien sûr.
T'as eu des billes dès le départ, quoi. T'as eu un accès à Internet quand t'avais 14 ans.
Évidemment, évidemment. Tous les mecs, tous les gourous de YouTube, mais moi y compris, tu vois, je peux me mettre dedans, c'est-à-dire des entrepreneurs, les infopreneurs, tous les mecs qui réussissent dans la crypto, dans le drop, dans absolument tous les business aujourd'hui, et je te parle même pas forcément des personnalités publiques, hein. Je te parle des entrepreneurs que personne connaît, qui font leur business dans leur coin. On serait né 200 ans plus tôt, mais même pas 1% aurait fait des trucs. Même si c'est dans notre ADN, entre guillemets, être entrepreneur, on a quand même eu des opportunités, on a quand même encore aujourd'hui des opportunités qui sont dingues, tu vois. Avant, pour lancer une entreprise, mais si t'étais pas diplômé d'HEC, si t'avais pas énormément de thunes, ou que t'étais pas le fils d'eux, mais c'était impossible. Fallait lever des fonds, fallait des usines, des machines, des ouvriers. Et puis, bon, c'est très caricatural, très cliché de le ressortir, mais aujourd'hui, avec un PC, un téléphone, une connexion Internet, tu peux faire des trucs de fou, quoi. Donc oui, évidemment qu'il y a une part de chance et ça a joué, en fait, ça joue dans 90% de notre réussite. Mais par contre, les 10%, c'est notre responsabilité et c'est pas parce qu'on a eu énormément de chance que ça ne vaut rien, notre mérite. Par exemple, on avait toujours ce débat-là avec mon père qui était en mode « oui, non, mais effectivement, là, avec ta génération, l'époque dans laquelle t'es né, t'as eu de la chance. » Je dis « oui, bien sûr, mais tous les gens de mon lycée à l'époque, ils avaient la même chance que moi. Ils avaient les mêmes outils, ils avaient le même accès à Internet, ils avaient les mêmes réseaux sociaux et ils en ont rien fait. » Donc évidemment qu'on a eu de la chance, mais au même titre que 90% des Français en fait. Par contre, on a beaucoup plus de chance que le mec qui est né au Bénin, quoi.
Clairement. Et tant qu'on est sur la réussite, tu dirais que c'est quoi aujourd'hui ton plus gros succès ?
C'est pouvoir me lever à l'heure que je veux. Alors je sais que ça va paraître extrêmement étrange pour certains, mais j'ai de lourdes tendances insomniaques, mais vraiment très très lourdes. C'est-à-dire que le sommeil, moi, c'est vraiment un combat pour moi de pouvoir dormir assez, dormir correctement aux bonnes heures. Je peux vraiment être décalé des fois, c'est-à-dire vraiment dormir la journée et vivre et travailler la nuit. C'est vraiment un truc contre lequel je me bats et c'était très très difficile à vivre lorsque j'étais donc étudiant et que j'avais des horaires imposés. Il y avait le côté où je travaillais la nuit pour mon business évidemment, mais il y avait aussi le côté où j'avais beaucoup de mal à dormir en fait. Et donc en fait je dormais 4 heures par nuit et c'était extrêmement difficile à vivre parce que vivre quand tu dors 4 heures par nuit, c'est pas pareil que quand tu dors vite quoi. C'est-à-dire en termes de santé mentale, d'énergie,
ouais, c'est sûr.
De vécu, de ressenti, de fatigue, c'est horrible. Donc je dormais la journée mais enfin c'était horrible. Et aujourd'hui, mais c'est un luxe, mais inestimable à mes yeux, de juste pouvoir me dire, mais là, je n'ai pas de réveil, je m'en fous, et puis au pire, si j'ai un rendez-vous, au pire, je peux l'annuler ou le décaler, et je dors assez, quoi. Et ça, c'est un luxe énorme. Et je sais que ça va paraître très étrange pour beaucoup. Moi, juste le fait de ne pas avoir de réveil, c'est, je pense, le truc dont je jouis le plus. C'est-à-dire, franchement, tu me demandes, est-ce que tu préfères gagner 60 000 euros de chiffre d'affaires par mois, comme aujourd'hui ? Mais te lever tous les jours à 10 heures ou alors ne gagner plus que 10 000 euros par mois ou 6 000 euros, 5 000 euros par mois et pouvoir continuer à te lever à l'heure que tu veux, je prends la deuxième option.
Ok, ah oui, à ce point.
Ah oui, oui, vraiment.
Et ouais, en plus, tu me disais que tu bossais pas mal la nuit, c'est ça hein ?
Énormément. Je suis beaucoup plus à l'aise, en fait, à l'idée de travailler quand le marché dort. Je sais pas comment expliquer ça, peut-être que les entrepreneurs comprendront, mais... Quand tu travailles, quand tu vis et donc que tu crées des choses, que ce soit des projets, du contenu, etc., des offres, pendant la journée, en fait, le marché vient en même temps que toi. Donc, tu n'as pas de longueur d'avance, en fait. Sauf si tu travailles 2-3 semaines à l'avance, tu vois, que tu lances des choses qui vont avoir effet dans plusieurs semaines, que tu as organisé, quoi, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Bah, tu travailles, tu vis, tu avances en même temps que le marché. Alors que quand tu travailles la nuit, je trouve qu'en fait, c'est beaucoup plus calme. Personne t'envoie de message parce que tout le monde dort à partir de 23 heures. Donc, tu as une tranquillité énorme, tu n'es pas dérangé. Et t'as l'impression d'être en avance. Tu vois, c'est comme les mecs que je respecte énormément qui se lèvent à 5h du mat. Les mecs, ils se lèvent pendant que tout le monde dort et t'as la sensation d'être en avance. Et en fait, la sensation d'être en avance, c'est un super pouvoir.
Yes. Ouais, ça me parle. Bah, moi, en ce moment-là, je suis à Bali et tu sais, il y a plus de 7 heures par rapport à la France. Et j'aime trop cette sensation quand je me lève le matin à 8-9 heures. Je sais que j'ai jusqu'à 14-15 heures avant qu'un message ou un mail de n'importe qui de France arrive, tu vois. Et du coup, là, c'est le moment où je suis tranquille pour bosser. Donc, je kiffe cette sensation-là.
Évidemment, bah, j'avais la même quand j'étais à Bali. Enfin, la première fois que j'y suis allé, parce que la deuxième, j'ai pas tant travaillé que ça. Mais effectivement, c'est une sensation qui est géniale. Et à contrario, exemple contraire, lorsque moi, j'étais au Mexique, donc il y a à peu près un an et demi, deux ans, c'est la France qui avait 7 heures d'avance. Et j'aimais pas du tout. J'étais très mal vécu parce que cette sensation d'être toujours en retard... En fait, tu bâcles tout et puis tu peux être paralysé. Ça, c'est un sentiment aussi que beaucoup d'entrepreneurs connaissent. C'est que tu as plein de trucs qui s'accumulent et tu as un sentiment d'être submergé complètement. Et donc juste, en fait, au lieu d'avancer, de te battre, tu te bloques, tu te paralyses et tu fais plus rien. Je sais pas si t'es déjà arrivé, si t'es assez sensible à ça. Mais c'est vrai que quand t'as plusieurs merdes ou plusieurs trucs à faire ou plusieurs situations de crise qui tombent dessus, dans la majorité des cas, si tu gères bien, tu vas pouvoir te battre, gérer les problèmes, etc. Mais il arrive que des fois, tu sois tellement submergé que juste tu te bloques et t'es paralysé, tu vois. Et en plus, si t'as un retard par rapport au marché, c'est ingérable.
Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu sais pas où te donner de la tête, t'es perdu, quoi, t'es bloqué.
C'est ça.
Je t'ai demandé ton plus gros succès. Est-ce que tu nous partages un échec ou même, on va dire, ton plus gros flop?
Le plus gros flop, alors je donne souvent l'exemple d'une formation que j'ai lancée qui s'appelait Rentier Digital, qui était une formation sur l'email marketing. Et j'avais passé des semaines à la composer, à la créer, à la concevoir, à la tourner. Et en fait, pour moi, l'email marketing, ça a toujours été le truc qui est génial. Enfin, moi, même si Instagram, bah, ça m'a rapporté tous mes clients, ce qui m'a permis de les convertir in fine, c'est-à-dire ce qui a rapporté des ventes à l'instant T, c'est l'email marketing. Donc pour moi, en fait, c'était évident, mais pareil, moi, j'avais mis un an à processiser ça. J'avais des preuves de revenus. Je savais que quand j'envoyais un email, j'encaissais 2 SMIC dans la journée qui suivait. Donc je l'avais ultra intériorisé. Et donc, en fait, il y avait une sorte de gap entre ce que moi, je pensais, ce que je savais, et ce que l'audience savait, tu vois.
Ouais.
Et donc, pour moi, c'était évident, et je me suis même pas emmerdé à faire énormément d'éducation sur la page de vente, et je l'ai lancé en disant, mais attends, mais tout le monde sait que l'email marketing, c'est génial, donc tout le monde va acheter. J'ai fait une seule vente dans la soirée, et c'était un lancement qui était catastrophique. Et en fait, moi, j'avais tout misé dessus, parce que pour moi, la valeur de ce programme était énorme, mais j'avais pas réussi à transmettre cette valeur perçue à mon audience. Et donc, je me suis retrouvé avec 3 semaines non seulement de non-revenus, puisque je n'avais rien lancé pendant ces 3 semaines, tellement j'étais occupé à la formation, et une semaine de flop où, en fait, entre les logiciels, les gens à payer, bah, j'avais pas fait de profit, quoi, sur le mois. Et ce qui est très gênant, c'est que quand tu enseignes la vente, ce qui est mon cas, tu vois, même si j'enseigne Instagram, le marketing, au final, tout est de la vente, même la création de contenu, c'est de la vente douce en soi, et que tu flops sur un lancement, déjà, par rapport aux gens, ils peuvent se dire, mais attends, mais en fait, tu nous enseignes un truc que tu maîtrises pas parce que chaque chose que tu lances n'est pas parfaite. Alors qu'en fait, tout le monde flop, tu vois, c'est normal.
Ouais.
Mais ce qui est le plus dur, c'est que toi, tu peux te dire, putain, mais en fait, je suis peut-être pas aussi bon que ce que je pensais. Et donc là, tu peux te remettre en question et là, c'est très dur.
Ouais, je vois. D'ailleurs, c'est pas le Denis Kruger effect, un truc comme ça, là, quand t'as un peu la posture de l'expert et que tu surestimes.
Non, l'effet Denis Kruger, c'est lorsque tu lis influence et manipulation. Je te donne un exemple typique. Tu lis influence et manipulation et pour toi, là, t'as tout compris. En fait, c'est-à-dire que lorsque tu débutes tu commences à apprendre les basics, tu te sens, mais l'expert.
Tu te sens trop chaud alors que t'as 3 bases, quoi.
T'es le futur Edouard Bernays, t'es le marketeur, t'as tout compris, tu comprends tous les gens, tu vois, ouais, moi je connais tout machin. Et en fait, tu lis 3-4 autres bouquins et tu te rends compte de l'étendue, on va dire, du domaine et de la complexité de ce dernier.
Mmh, ouais, je vois.
Et là, en fait, plus t'es avancé, plus t'as conscience que la seule chose que tu sais, c'est que tu ne sais rien, tu vois.
Mmh. Aujourd'hui, toi, du coup, tu vends des formations principalement. Tes formations, c'est quel format? C'est plus de la formation vidéo? Ou c'est avec des modules, avec des exercices? C'est quoi un peu le type de contenu à l'intérieur?
C'est principalement de la vidéo. Moi, j'ai très peu de croyance en la pédagogie comme on nous l'a enseigné dans le système scolaire, c'est-à-dire les exercices, les quiz, les machins, etc. Moi, je joue vachement là-dessus. C'est que les formations, et j'ai un peu pris ça sur le modèle Antoine BM que je trouvais très bien. C'est pour ça que moi, je me suis toujours formé dans ce type de formation, c'est-à-dire des formations très courtes sur un sujet où c'est du concret et pas de blabla. Et j'ai pris un peu ce modèle-là, c'est-à-dire que c'est des formations très concrètes, tournées vers l'action, où voilà, t'as des vidéos, on t'explique ça, ça, ça. Après, va bosser, fais-le, quoi. Pas remplis 3 quiz, fais 6 questionnaires, et puis ensuite, fais de la méditation pendant 5h30 pour être sûr d'avoir bien intériorisé. Non, t'es juste, t'apprends l'email marketing, bah après, tu fais un vrai email de vente. Tu fais pas un email de test, exercice, machin. Non, tu confrontes ton idée au marché. Et c'est le grand dame des écoles de commerce et du système scolaire classique. C'est qu'en fait, on t'apprend plein de choses qui théoriquement sont valables, mais on ne les confronte jamais au marché. Tu vois, c'est comme les profs d'école de commerce qui n'ont jamais lancé un business. Ils t'apprennent tout, mais ils l'ont jamais fait eux-mêmes. Et bizarrement, bah, tu sors d'école de commerce, tu fais les 4 P. Tu sais, je sais pas si tu connais ce truc de merde, là.
Ouais,
price, product, position, place, je sais pas quoi. Petite anecdote, d'ailleurs, j'avais recroisé une connaissance que j'avais en étant au lycée, il y a à peu près 1 an. Il sait ce que je fais sur Instagram, etc. On s'est croisé lors d'une soirée, ce genre de choses. Et il m'a dit, ouais, Manoa, moi, je sais comment vendre un produit à coup sûr. Je fais, putain, mec, bah, écoute, je suis preneur, dis-moi. En fait, c'est les 4 P, c'est product, place, machin, et en fait, tu peux savoir si le produit va se vendre. Ouais, mais t'as un exemple du coup? Bah là, en fait, faut vendre le bon produit au bon prix, aux bonnes personnes, au bon moment. D'accord.
Merci Sherlock.
Et c'est ça, c'est le problème de toutes les institutions classiques, et c'est pour ça que je vais à l'antipode de ça dans mes programmes. C'est de la théorie, c'est du blabla, c'est du vent. et on te confronte jamais au marché, tu vois.
Est-ce que tu as des stats un peu sur le nombre de personnes qui font tes formations et le nombre de personnes derrière qui passent vraiment à l'action? Je te demande ça parce que je trouve dans le business des formations aujourd'hui, il y a un peu deux modèles maintenant. Tu sais, il y a eu l'arrivée des bootcamps. Tu vois, il y avait pas mal de formations vidéo. Maintenant, il y a les bootcamps où tu as vraiment... Bon, je pense que tu sais ce que c'est. Mais en gros, tu as la puissance du collectif, tu as l'aspect communautaire et tu as vraiment un suivi sur plusieurs mois ou plusieurs semaines. Je sais qu'il y a des stats qui montrent qu'il y a beaucoup plus de gens qui passent à l'action avec des formats bootcamp. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà envisagé? Est-ce que tu penses que ça suffit une formation pour derrière vraiment passer à l'action?
Alors, je pense que ça suffit lorsque l'aspect justement communautaire suivi n'est pas forcément nécessaire. Par exemple, je sais que moi, là où on a le plus de résultats, c'est suite aux séminaires, aux accompagnements, etc. Même les coachings de groupe, ce genre de choses. Parce qu'effectivement, il y a un suivi, il y a du personnalisé aussi, évidemment. Une formation, c'est très bien, mais tu vas te retrouver face à des problématiques d'ultra-niche que tu peux pas forcément prévoir dans une formation qui va être vendue à des dizaines, voire des centaines de profils d'entrepreneurs différents. Donc, c'est sûr que le côté communautaire bootcamp, ça peut être absolument génialissime et ultra intéressant en termes de résultats de passage à l'action. Mais la vérité, et ça, le marché n'est pas forcément prêt à l'entendre, je vais peut-être me mouiller un petit peu en disant ça, c'est que 90% des gens sont incapables et ne sont pas assez qualifiés, assez avancés pour faire partie d'un bootcamp. Et moi, les rares que je fais une sélection énorme en termes de barrière à l'entrée, au prix déjà, du bootcamp, de l'accompagnement de groupe, et aussi de la qualification en termes d'avancée, c'est-à-dire est-ce que le mec a déjà un business qui tourne ou pas. C'est-à-dire que je vais pas perdre mon temps à faire des bootcamps communautaires, etc., avec des gens qui vont parasiter en fait l'esprit de groupe, mon temps et le temps et l'énergie des autres. Par exemple, là, j'ai un groupe privé qui s'appelle L'Ordre, où en fait, c'est une sorte de réseau privé, groupe d'influence, etc. Et il y a une barrière de prix pour y rentrer, et il y a aussi une barrière de qu'est-ce que tu peux nous apporter. C'est vraiment un côté, on développe un réseau en parallèle, quoi, une sorte de petite mafia, tu vois, de petite secte sans gourou. Et il y a vraiment ce côté où tu ne peux pas rentrer, même si tu me dis, mais je paye, mais tu n'as rien apporté, je vais vraiment te dire non. C'est-à-dire que je ne vais pas te bénéficier là-dessus. En plus, l'argent, il est utilisé pour financer des événements de l'ordre, tu vois. Donc, je ne me fais pas de profit là-dessus. Mais en fait, le business plan, entre guillemets, l'intérêt, c'est de conserver un groupe où il y a un intérêt et où le niveau de chacun est assez élevé pour qu'il y ait un vrai apport. Mais là, si demain, par exemple, pour répondre à ta question du bootcamp, n'importe quelle formation que je fais, il y a un espace de travail, il y a des lives, des machins, mais c'est la kermesse, c'est un zoo.
Okay.
La plupart des gens sont pas assez intelligents, sont pas assez matures, sont pas assez débrouillards, travailleurs et sérieux pour qu'on fasse des coachings, de la communauté, etc. Pareil, le côté communautaire, ça peut être génial, mais je sais pas si tu te souviens de l'époque un petit peu du dropshipping, etc. 2016-2017, tu regardes les groupes Facebook, mais c'était branlette land en fait. C'est-à-dire que tout le monde postait, alors il y avait 1% qui postait ses résultats, 95% qui bavaient dessus et 4% où c'était les zoos, c'était des parasites qui envoyaient des messages, des questions connes, des machins, tu vois, c'est impossible, c'est intenable, surtout quand t'as une grosse audience en fait. Si t'as 3 clients, oui, tu peux faire un bootcamp, si t'en as 300 déjà, bon courage.
Ouais, c'est intéressant, donc tu filtres, je savais pas que tu faisais des formats bootcamp, du coup j'avais visité, je sais que t'as plusieurs formations, mais je savais pas que tu faisais aussi des bootcamps de temps en temps.
Ben en fait, c'est qu'en interne, c'est-à-dire lorsqu'on voit quelqu'un qui, par exemple, nous envoie ses résultats, nous montre qu'il a un vrai business qui tourne, qu'il n'est pas con, etc., ben là, effectivement, ça peut être intéressant même pour nous de travailler avec eux. Et moi, c'est quelque chose que je fais de plus en plus, c'est que les gens qui m'intéressent, qui ont des vrais business, qui sont carrés, etc., je leur propose, par exemple, qu'on s'associe sur des business, tu vois.
Ouais.
Donc en fait, il y a des choses qu'on ne lance qu'en interne, c'est-à-dire que qu'en ultra filtré, où on vise 2-3% de notre audience, parce que justement, ça ne s'adresse pas aux autres 97%, et ça serait ni intéressant pour nous, parce qu'on perdrait notre temps, ni pour eux, parce qu'ils perdraient de l'argent bêtement. Donc par exemple, en accompagnement, en coaching, je ne prends pas des gens qui n'ont pas de business. Enfin, je n'en prends plus. J'ai fait cette erreur en 2020 et je n'en prends plus. Parce que en fait, moi, de mon côté, je parle dans le vide et puis ils ne sont pas assez avancés pour comprendre, ils passent souvent pas à l'action, etc. Et eux, de leur côté, ils mettent de l'argent qu'ils ne retrouveront pas parce qu'ils ne vont pas être capables d'appliquer les conseils et de passer à l'action derrière. Donc, c'est perdant pour les deux, quoi.
Tu parlais d'Antoine BM. Je sais que lui, il fait beaucoup ça aussi sur ses formations. Des fois, il s'associe avec des gens pour lui racheter sa formation, en fait, et vendre sa formation sous la bannière Antoine BM, on va dire. Est-ce que toi, tes formations, tu les conçois toutes, ou est-ce que des fois, tu t'associes avec des gens pour créer des formations?
Bah, au début, je faisais des formations dans lesquelles j'avais un domaine d'expertise, c'est-à-dire l'email marketing, la vente, Instagram Empire, qui est le programme phare. Ça, c'est des programmes dont je maîtrise le sujet. Mais au bout d'un moment, t'arrives à une certaine limite, tu vois. par exemple, voilà, Amazon KDP, Dark Kitchen, tu vois, le fait de lancer un restaurant sans cuisine, sans local, etc., sur Uber Eats, ce genre de choses, c'est des business ou des domaines de compétences que j'ai pas lancé ou que je n'ai pas. Et j'aurais un énorme problème de légitimité, de crédibilité, une sorte de dilemme moral à parler d'un truc que je connais pas, que je maîtrise pas, que j'ai pas fait, tu vois. Et du coup, au lieu de faire ça, donc au lieu de devoir faire comme beaucoup, dont je citerai pas le nom, mais inventer de la preuve sociale, faire de faux témoignages, se prétendre expert alors qu'on l'est pas, moi je préfère tout simplement aller chercher des mecs qui sont experts là-dedans, qui ont déjà un business qui tourne bien et dont le métier n'est pas de vendre des formations, et de faire ce modèle. Ah oui, moi je l'avais fait, je crois qu'il l'a même fait après moi, Antoine BM, d'aller chercher des gens pour les vendre effectivement sous la bannière Fortune Media. Et moi, je ne rachète que très rarement les droits. Je préfère leur verser une commission à vie. Comme ça, ils sont investis dans le projet.
Okay.
Et ils vont pouvoir suivre les élèves. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir répondre à leurs questions. Ils vont pouvoir faire des mises à jour, des modules additionnels si besoin, etc. Donc, c'est mieux pour moi parce que je n'ai pas à me soucier de si la formation devient périmée puisqu'elle sera régulièrement mise à jour selon les besoins. Je n'ai pas à me soucier du support client où je ne saurais pas quoi répondre parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise parce qu'ils le font à notre place. Et bah voilà, c'est mieux pour l'enseignant, c'est mieux pour l'élève, c'est mieux pour nous. Donc, c'est une sorte de cercle vertueux.
Ok. Si on parle un peu plus de création de contenu, toi, comment tu fais un peu pour aller choisir les types de contenu? Parce que du coup, tu as le branding Fortune Media, tu as vraiment une identité visuelle qui est reconnaissable sur Instagram. C'est quoi un peu ton process? Est-ce que tu as processisé quelque chose par rapport à la création de contenu? Comment tu fonctionnes par rapport à ça?
Au début, c'était beaucoup de contenu prouvé. C'est-à-dire, en fait, regarder ce qui marche ailleurs et le refaire à ta sauce en mieux, avec ton langage, avec ta manière de parler, avec ta touche personnelle, etc. C'est-à-dire, je regardais les posts entrepreneuriaux qui marchaient le mieux aux US. Et je disais, ah putain, ça c'est intéressant comme concept, etc. Je le refaisais complètement avec mes mots, avec mes conseils. Je changeais parfois même les trois quarts, mais je gardais l'essence de la chose et je le publiais. Et je faisais ça qu'avec des contenus qui avaient déjà marché, donc des contenus prouvés, et de plus en plus avec le vécu, l'expérience, les connaissances acquises, les business lancés, les tests, etc. J'achète de plus en plus de contenu qui émerge de moi, et là par exemple aujourd'hui ça représente 95% de mon contenu, c'est-à-dire le contenu qui émerge de moi, c'est-à-dire de mes idées, de ma tête, de mon expérience, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai testé, etc. Et en fait il n'y a pas tellement de process aujourd'hui, c'est plus réfléchir en partant de la personne en face de toi, c'est-à-dire... Et bien voilà, tu vends plutôt à une audience d'entrepreneurs. Ok, bah qu'est-ce que les entrepreneurs, ils ont envie / besoin d'entendre? Bon bah ok, sur le plan, moi je parle souvent des émotions ou des problèmes. Très basique, c'est-à-dire, enfin, problème, désir, émotion. C'est les trois grands points que moi j'utilise, c'est-à-dire voilà, en termes d'émotion, on peut taper sur quoi avec la colère? Ah, ok, bon, on peut parler des impôts. On peut taper sur quoi si on part de la jalousie? Bah ok, les gens qui vont te jalouser quand tu auras des résultats alors qu'aujourd'hui ils se foutent de ta gueule. Ok, on va taper sur l'espoir. Ok, bon bah quand tu auras atteint les 10 000 euros par mois, tac, tu vois, ce genre de choses. Ensuite tu passes aux besoins, c'est-à-dire quand ils ont un objectif, etc., qu'ils savent pas comment l'atteindre, hop, tu vas faire un plan d'action où tu vas donner des conseils concrets. Ou alors, troisième exemple, donc troisième point, les problèmes, comment X sans Y, comment arriver à se débarrasser définitivement de Y, comment surmonter Y, etc. Mais en fait, c'est beaucoup d'études du prospect en face de toi, quoi. En soi, il n'y a pas de méthode usinable, automatisable, etc. À la création de contenu, il y a une grosse part d'art quand même. Même s'il y a beaucoup de science dans la forme, le fond, pour trouver les idées qui percutent, qui restent, qui stick, entre guillemets, il y a une part d'art, voire de génie en soi. Sans vouloir me dire, oh là là, je suis un génie, je te parle de tous les créateurs de contenu, il y a une part de génie.
C'est toi qui crée tous tes contenus aujourd'hui?
Le fond, oui. La forme, beaucoup moins. À part quelques contenus, effectivement, qui sont un peu plus broad, où là, je délègue. Genre les Reels. Les Reels, c'est pas moi qui les fais. Mais effectivement, les idées, les emails, les formations, etc., c'est moi qui fais tout pour l'instant. Et lorsque j'ai besoin d'aller plus vite ou j'ai pas le temps, effectivement, je délègue à des gens. Mais l'essence, que ce soit la big idea, que ce soit le fil rouge, que ce soit l'idée principale, ça vient toujours de moi, oui.
Et t'as une équipe en interne ou est-ce que tu bosses avec des indépendants?
Équipe en interne, si tu entends, enfin si tu veux dire salarié, non, je n'en ai aucun.
Ouais.
Je suis le seul salarié de la boîte parce que le droit du travail en France, c'est-à-dire que tu veux payer un mec 3 000, bah, ça te coûte 6 000. Et ensuite, si tu veux t'en séparer parce qu'il est mauvais, parce qu'il a fait de la merde, etc., tu dois remplir 6 000 paperasses, etc. Enfin, c'est insupportable. Donc pour le coût et la complexité, je préfère largement le freelancing. Et donc oui, j'ai une sorte de petite équipe pour la création de contenu notamment. Et donc, dès que j'ai besoin, que ce soit page de vente, contenu, etc., oui, j'ai des gens avec qui je travaille. C'est tout le temps les mêmes depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et c'est extrêmement agréable. Mais c'est un truc que je mets beaucoup de temps à construire, à développer. puisque comme je te le disais en off, j'ai beaucoup de mal avec l'humain, c'est-à-dire que je peux être très froid, très condescendant sans forcément le vouloir. Et donc, ouais, gérer de l'humain, c'est quelque chose qui m'est très difficile et très peu agréable.
Ok. Bon, au moins, t'es clair là-dessus, quoi.
Mais tu vois, je trouve ça très facile d'avoir de l'empathie pour quelqu'un à qui tu veux vendre, parce qu'il y a une sorte d'intérêt et de démarche pédagogique. Mais des gens à qui tu travailles et à qui toi, tu donnes de l'argent, bah, t'as forcément un peu plus d'exigence en termes de compréhensibilité, tu vois. C'est-à-dire que puisque j'attends que le client m'envoie de l'argent, entre guillemets, c'est à moi de faire le travail. C'est-à-dire, c'est moi qui vais expliquer, c'est moi qui vais lui expliquer pourquoi il a intérêt à acheter, etc. Et en fait, je m'attends à la même chose de mes collaborateurs. C'est-à-dire que puisque c'est moi qui vais leur donner de l'argent, je m'attends à ce que eux fassent le travail qui est un travail de bon sens finalement. De dire, OK, de quoi il a besoin? Qu'est-ce qu'il veut pas? Qu'est-ce qu'il désire? Etc. Et ça, très peu de gens sont capables de le faire.
Ouais, OK. Je vois ce que tu veux dire. T'es assez exigeant en gros sur toi, ce que tu veux faire, ce que tu t'imposes entre guillemets, et du coup tu veux que les personnes soient, tu veux être exigeant avec les personnes qui travaillent pour toi, quoi.
Bah ouais, surtout que globalement le niveau est quand même assez bas, et des fois c'est effarant de voir des erreurs ou des manques de sérieux en fait dans le travail, et quand t'as un minimum d'exigence, c'est très difficile à vivre. Mais les gens qui nous écoutent comprendront, dès qu'ils recruteront le moindre freelance, le moindre mec, le moindre collaborateur, ils verront que c'est insupportable. Dès que tu fais à peu près bien le taf, ou que tu penses bien le faire, c'est très très chiant d'avoir des gens autour de toi qui font « ouais non c'est bon je l'ai fait, ouais je le fais demain mais là j'ai oublié, enfin ouais c'est pas parfait mais c'est pas grave, c'est insupportable.
» C'est quoi là tes objectifs sur 2023 vu qu'on est en début d'année avec Fortumedia ?
Alors toujours le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'aimerais bien acquérir aussi un business qui n'a rien à voir avec l'infoproduit, puisque c'est un truc qu'on me reproche beaucoup. Tu vois, c'est Oussama Ammar qui, dans une interview avec Yomi Denzel, il disait qu'il a lancé un business juste pour, en gros, faire un doigt d'honneur au mec qui disait qu'il n'était pas capable de rigueur. Il a lancé un business ultra rigoureux dans les cryptos, les machins, etc.
Ouais, je m'en rappelle.
Et il a dit, mais en gros, allez vous faire foutre, je vais le faire juste pour vous prouver que j'en suis capable. J'ai un peu ce truc-là parce que c'est une des seules objections que j'entends encore et que je considère comme étant un peu valable. C'est on me dit, oui, mais toi, en fait, les trucs concrets, entre guillemets, t'en as pas fait, quoi. T'as fait de l'infoproduit. Moi, je trouve ça très concret, l'infoproduit, tu vois. Mais c'est pas parce que c'est digital que c'est pas concret. Mais j'ai ce côté un petit peu égocentrique de dire, ah ouais, vous voulez, d'accord, très bien. Et je pense racheter un business plus dur, plus concret, plus physique. Je pense à un site d'e-commerce, mais sérieux, tu vois, un site d'e-commerce qui est là depuis longtemps, qui a du stock, qui a une vraie image de marque, etc. Et de lui faire décupler ses résultats pour le revendre ensuite, pour que ça soit quelque chose d'incontestable, tu vois. C'est ajouter de la crédibilité, ajouter de la preuve et aussi me challenger personnellement.
Ok.
C'est un truc que j'aimerais bien faire. Et je vais accentuer aussi le côté investissement en termes de talent, tu vois. C'est-à-dire que dans mon audience, j'ai des mecs qui sont très bons, qui ont des beaux projets, qui sont carrés. Et j'aimerais bien faire comme ce que j'ai fait avec Candy, qui était un de mes élèves il y a 2 ans. Et on s'est rencontrés, le feeling est très bien passé. Il se trouve que je pouvais apporter quelque chose en termes de conseils marketing, de conseils de com à son business. Et en fait, j'ai pris des parts dans sa société. Et aujourd'hui, bah voilà, je suis actionnaire et entre guillemets consultant. Et c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, puisque c'est très agréable de travailler avec des gens où il y a vraiment cette relation juste de conseil et où tu as un vrai intérêt dans l'entreprise à ce que ça marche, parce que toi, in fine, tu prendras des dividendes à la fin, tu vois. Donc, c'est un truc que je veux accentuer, c'est-à-dire utiliser mon audience pour trouver des gens avec lesquels m'associer.
Intéressant, ouais. Donc, tu voudrais être un espèce d'incubateur de talents et pour investir dans leur société, quoi.
C'est ça.
Ok. Question qu'on t'a peut-être déjà posée, mais vu que tu as fait pas mal de trucs, j'ai envie de te la poser. Si aujourd'hui t'avais rien du tout, t'avais aucun asset, t'avais aucun network, enfin t'étais pas présent, t'avais pas d'audience, t'avais rien, qu'est-ce que tu ferais en premier ?
Alors je pense, j'hésiterais entre deux choses, une plus long terme, plus ambitieuse et plus lourde entre guillemets en termes de complexité, et une autre qui est là pour faire du cash rapidement. C'est-à-dire que je vais être tenté entre faire un énorme projet qui peut m'apporter énormément, mais assez risqué, qui va me prendre beaucoup de temps, qui va pas payer tout de suite, ou alors faire un truc qui fait du cash maintenant, mais qui est moins ambitieux, qui est moins grandiose, etc. Du coup, la première chose, le projet plus grandiose, plus sérieux, plus complexe, ce serait de lancer un business dans l'IA, un truc vraiment lourd, que ce soit même juste une chaîne YouTube où t'en parles, tu vois. Je pense que les CPM vont être assez intéressants. Je pense que je lancerai de la création de contenu autour de l'IA. Ou alors, si c'est pour faire du cash rapidement, parce que je pense que j'aimerais, si je perds des tout, entre guillemets, ou si je recommence à zéro, je voudrais récupérer mon niveau de vie. Je pense que ça serait l'urgence principale, entre guillemets. Je ferais ce dont je parle beaucoup en ce moment, c'est-à-dire le business OnlyFans.
Ok.
Alors, si ton audience n'est pas familière avec ce que c'est, peut-être beaucoup vont trouver ça immoral et c'est ouais. OK, c'est pas grave. C'est tout à fait OK. C'est en fait non pas être modèle OnlyFans, mais justement aider des créatrices de contenu à se développer et toucher une part de leurs revenus. Il y en a beaucoup qui trouvent ça immoral et non éthique, et c'est OK. Vous n'êtes pas forcé de le faire, mais c'est un business qui est extrêmement prolifique, profitable et facile, et où tu peux avoir des résultats assez rapidement. Et je pense que je me lancerai là-dedans, enfin, je me relancerai là-dedans pour faire du cash rapidement et juste bien vivre, quoi. Surtout dans une période comme aujourd'hui où les prix explosent, où c'est plus important que jamais d'avoir pas mal de sources de revenus et des sources de revenus conséquentes, je pense que je ferai ça en premier. Et limite, j'utiliserai l'argent d'OnlyFans, du management OnlyFans, pour lancer d'autres business derrière.
Ouais, du coup, pour bien expliquer, quand tu parles de management OnlyFans, c'est que tu vas aller trouver des filles principalement, je pense, qui sont intéressées pour poster sur OnlyFans, et tu vas les aider à construire leur communauté sur le réseau, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. À maximiser leurs revenus, à se faire connaître sur Instagram, sur TikTok, ouais, c'est ça.
Tu prends un lien d'affiliation, tu prends une com, un truc comme ça, c'est ça.
Exact, c'est ça. C'est ce qui est totalement légal, hein, je précise, c'est totalement légal. C'est de l'affiliation sur de la vente de contenu privé.
Yes. Ouais, c'est sûr que ça va faire grincer un peu des dents, je pense, dans l'audience, sur le côté éthique, moral, tout ça.
Je pense que c'est quand même une préoccupation un peu de bourge, pour être tout à fait honnête. Moi, la fois où on a été le plus virulent avec moi sur ce business, c'était dans une soirée un peu mondaine où t'as un mec qui m'a un peu sauté à la gorge quand il a appris ce que je faisais, parce que selon lui, c'était immoral, non éthique, non mais t'as pas honte, etc. Et je suis non mais mon coco, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà c'est légal, donc de ce point de vue-là, il y a rien de reprochable. Et deuxièmement, je trouve ça très facile de critiquer ça lorsqu'on a vécu toute sa vie avec une cuillère en or dans la bouche, donc des études à HEC payées par papa, maman, un job bien payé, pistonné par papa, ce genre de choses. C'est très facile de critiquer ceux qui veulent s'en sortir. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sentent capables de rien, pour être tout à fait honnête, et qui vont toujours trouver un truc dans n'importe quel business pour le descendre. Tu vois, le business OnlyFans, ça va être l'éthique. On va faire « Non, mais attends, mais t'as pas honte ?» Alors que la modèle est consentante, le client consentant, tu es consentant, tout le monde est consentant, il n'y a que eux qui n'en font pas partie de ce marché, qui gueulent. Le business des formations, c'est « Non, mais c'est le serpent qui se mord la queue, de toute façon, c'est de l'arnaque. » Le dropshipping, ouais, non, mais ils vont toujours trouver quelque chose, tu vois.
Ouais, là, c'est vrai qu'on est sur un sujet un peu qui fait parler, parce que OnlyFans, sans parler de management OnlyFans ou quoi, déjà ça fait parler, ça fait débat. Et en plus, tu rajoutes le côté, on fait du business avec ça et tout. Donc forcément, ça rajoute le piment en plus, quoi.
Bah bien sûr, tu combines le capitalisme, ce qui est quand même extrêmement mal vu en France, et le business du corps, parce que c'est un business du corps, hein, c'est légal, c'est quand même un business du corps, donc qui touche à la morale chrétienne, forcément, ça fait grincer les dents. Mais c'est pas un problème. Après, les gens qui trouvent ce business non éthique, donc à pas se lancer dedans. Tu m'as demandé moi ce que je ferais, c'est ce que je ferais.
J'apprécie la transparence. Et sur le côté éthique, c'est intéressant. Toi, c'est quoi un peu t'as une limite par rapport à l'éthique, tu vois, j'avais vu aussi dans tes programmes un truc, les placements moralement douteux, un truc comme ça sur la formation. T'as parlé de Dark Kitchen tout à l'heure, ça c'est pareil. J'avais vu un truc, une vidéo là-dessus de Simon Pouetch, je sais pas si tu vois.
Ah ouais.
Sur le côté Dark Kitchen, ça fout un peu le bordel dans les villes. Bon, en bref, on s'écarte un peu du sujet. Mais tu te positionnes comment par rapport à l'éthique, toi, dans la vente de formation ?
Bah moi, en fait, mon éthique, elle est calée sur ce qui est légal. C'est-à-dire que le positionnement moral, en soi, pour moi, il n'a que très peu de sens. C'est-à-dire que la morale, elle est propre à chacun. Et moi, tu vois, OnlyFans, autant il y a des gens qui vont être terrifiés par ça, même dans ton audience, et je ne leur en veux absolument pas, mais il n'y a aucun souci, ils vont être terrifiés en se disant « Mais attends, mais comment tu peux faire ça, etc. » Le fait est que c'est légal et que moi, la modèle en question avec qui on va travailler, le client, tout le monde est d'accord, en fait. Tout le monde est consentant. Ça ne dérange absolument personne, tu vois. Qu'on fasse de la thune avec ça ou pas, ça ne vous regarde en rien. Et moi, mon éthique, je la cale sur la morale, tu vois. Donc, pour ce qui est, par exemple, du programme Argent Sale, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas du tout du blanchiment d'argent ou quoi que ce soit. C'est juste investir en bourse dans des entreprises qui font beaucoup de thunes. Pourquoi ? Parce qu'elles répondent aux pires vices de l'être humain. Ah, tu vas me dire, mais attends, mais quoi ? Ouais, mais en fait, c'est légal. Donc, par exemple, je vais un déplacement, je peux le balancer, tu vois, c'est une petite exclusivité. C'est Philip Morris, par exemple, c'est-à-dire la marque de clope. On peut dire, mais attends, mais ça fout le cancer, machin. Ouais, mais à ce moment-là, mec, tu vois, en fait, il y a aucune limite à ça. C'est-à-dire le mec qui va dire non mais attends, mais t'as pas honte dans les salades dedans. Ouais, mais toi t'as pas honte d'acheter un iPhone qui a été fabriqué par les petits enfants chinois, tu vois. Et en fait c'est sans fin cette histoire.
Ouais, tu peux toujours aller chercher. Ouais,
franchement je trouve ça plus honnête d'être quelqu'un comme moi, c'est-à-dire qu'il va dire bah ouais, business only fans, on investit en bourse dans les entreprises qui investissent dans le cannabis thérapeutique, dans la clope, même parfois dans les armes, tu vois. Mais au moins j'ai la cohérence et la dignité de l'avouer et de l'assumer, plutôt que des mecs qui vont te faire des, tu sais, c'est ce qu'on appelle il appelait ça comment, Oussama Hamar?
Oui, du truc de bienséance là, ou je sais plus comment ça s'appelle.
Ouais, c'est les mecs qui, en gros, bah comme le mec de FTX, il donnait cet exemple là dans l'interview, il disait les mecs qui se disent tout le temps moraux, très honnêtes, très éthiques, très souvent c'est les pires, tu vois. Petit exemple de politique et puis après on passe, mais c'est comme le Adrien Quatennens qui est député chez LFI, qui était le premier il y a quelques mois à faire une tribune en disant ouais non mais attends, les policiers ne prennent pas les plaintes des femmes qui se font tabasser, et je suis entièrement d'accord là-dessus, tu vois, c'est honteux, c'est horrible, tu vois. Mais on apprend 6 mois après que le mec, en fait, il tapait sa femme, en fait, et c'est toujours les pires. C'est comme FTX, le mec là qui disait oui, moi je veux gagner plein d'argent pour le redistribuer. Ouais, ben voyons, tu vois, ben voyons. Non mais c'est faux, c'est pas vrai. Et voilà, encore une fois, moi, mon éthique, je la cale sur ce qui est légal ou pas. Et des gens peuvent ne pas être d'accord avec moi et c'est tout à fait OK, tu vois. À l'inverse des gens qui vont peut-être me cracher dessus pour ça, moi, les gens qui ont leurs limites morales et éthiques, ben, je respecte, tu vois. Encore une fois, tant que ça ne m'affecte pas, ben, c'est pas grave. Enfin, ça me dérange en rien.
Ouais, mais du coup, c'est vrai que tu, entre guillemets, tu vas dire je préfère gagner de l'argent et cautionner des choses moralement douteuses et gagner de l'argent. Tu vas placer l'argent avant ça, au final.
En fait, je trouve pas ça moralement douteux, puisque pour moi, j'ai calé mon éthique sur ce qui est légal, tu vois. Pour moi, c'est ouais, relativement OK, je fais pas quelque chose d'honteux du tout. Et encore, il y a cette notion de réalisme où, du moment que c'est légal, en fait... Tu vois, par exemple, le business OnlyFans, ou les entreprises qui vendent des armes ou des assurances un peu douteuses, tu vois, voilà. En fait, dans tous les cas, c'est légal, donc c'est-à-dire que ça va se faire avec ou sans toi, tu vois. C'est comme les mecs qui disent, non, moi, j'investis pas, tu vois, mes parents, typiquement, ils sont en mode, non, mais on n'investit pas en bourse parce que on veut pas soutenir le système capitaliste. Ouais, mais papa, en fait, t'as un iMac et puis l'argent sur ton compte bancaire, il est investi malgré toi. Donc, si tu veux être cohérent, tu construis toi-même ton PC avec tes propres composants, tu vois, tu vas t'amuser. Et ensuite, tu retires ton argent en cash parce que si tu le laisses en banque, il est investi à ta place. Et c'est pareil, tu vois, Business Only Fans, si c'est pas moi qui manage, ça sera quelqu'un d'autre qui le fera sûrement moins bien et moins respectueusement que moi, en fait.
Tes parents, ils sont fonctionnaires, c'est ça?
Ouais, ils sont respectivement médecins, fonctionnaires donc, et profs d'anglais.
J'imagine bien les débats au repas de famille, là. Je referme la parenthèse morale, éthique, politique, mais en tout cas, c'était intéressant de discuter de ça avec toi, parce que c'est vrai que tu as des formations qu'on retrouve pas forcément partout et qui posent la question de l'éthique, donc c'était quand même intéressant d'en parler. Une autre question dans un autre registre, est-ce qu'il y a une chose que tu aurais aimé savoir plus tôt dans le business en ligne?
Ouais, moi, c'est le rapport à l'argent qui me fait quand même assez bizarre, pas dans le sens que les gens vont penser instinctivement, mais le fait d'accepter qu'en fait l'argent que tu gagnes n'est pas le tien et que c'est pas grave. Je m'explique. On commence tous en tant qu'auto-entrepreneur et donc en fait on gagne de l'argent, on est imposé et après c'est notre argent. Tu vois, c'est les fameux 5% quand t'as l'acre, 22% quand t'as pas l'acre, mais tout ce que tu gagnes en gros c'est à toi. Et dès que tu commences à avoir des sociétés, donc des SAS, des structures juridiques qui sont indépendantes de ta personne physique, donc des personnes morales quoi, tu gardes ce même rapport à l'argent. C'est-à-dire que ce que tu gagnes pour toi c'est à toi. Et c'est pas du tout le cas, en fait. Et c'est très dur à vivre quand, par exemple, bah, tu passes de ton entreprise à société, de comprendre que ce que tu gagnes n'est pas à toi. Et ça va paraître peut-être anecdotique ou étrange pour beaucoup, mais ils le comprendront quand ils dépasseront le palier des 70 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires en tant qu'auto-entrepreneur. Tu passes en société, d'un coup, tu payes déjà de la TVA. Ensuite, tu payes de l'IS. Ensuite, tu payes des cotisations. Et ensuite, tu payes de l'impôt sur le revenu. Donc, en fait, t'encaisses 100 euros. À la fin, il t'en reste 20. Tu vois? Et donc, forcément, c'est un peu bizarre. Et forcément, tu dis, mais attends, mais là, surtout quand tu restes en France, en fait, on me vole. Enfin, moi, je l'ai vraiment subi comme un vol, comme une extorsion. C'est-à-dire, attends, mais là, je gagne de l'argent et on m'en pique 80%.
Ouais.
Et moi, j'ai tout de suite mieux vécu la chose quand j'ai commencé à ne plus voir mon économie personnelle comme de l'argent qui rentre, mais comme des actifs qui produisent une certaine source de cash flow et qui ont une certaine valorisation. Par exemple, là, quand je vais sûrement... j'ai fait une offre très récemment pour racheter un site d'e-com. Et en fait, ce site d'e-com, il doit cracher à peu près 2,5K de profit par mois.
Mm-hmm.
Et ben, mon boulot, ça va être de le racheter, de doubler ça avec Instagram, notamment avec du SEO, etc., pour augmenter le bénéfice jusqu'à, par exemple, 5000 euros par mois. Et ensuite, même si moi, je ne vais pas toucher cet argent, puisque je vais les réinvestir, etc., il y aura des coûts, des frais, des machins, en doublant le bénéfice, je vais doubler la valorisation de ce business. C'est-à-dire qu'à la revente, il vaudra deux fois plus cher. Moi, si je l'achète, imaginons, moi, j'ai fait une offre pour 45 000 à peu près, si j'arrive à doubler le bénéfice, la valeur n'est plus de 45 000, mais facilement de 80 000. Et en fait, il faut voir ça vraiment comme du Monopoly. Et je sais que c'est quelque chose de mindset qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui est beaucoup moins digeste que d'habitude. Tu vois, je pourrais dire, oui, en fait, tu vois, à ta question, j'aurais pu répondre, ça va être beaucoup plus difficile que vous ne le pensez, il faut persévérer. Ouais, merci mec, on l'a déjà entendu 26 fois, c'est pas ultra intéressant. Le truc qui a changé et que j'aurais aimé savoir et apprendre plus tôt, c'est que l'argent que tu gagnes n'est pas ton argent et c'est OK. Le but du jeu, c'est pas d'avoir le plus de revenus personnels à la fin du compte, mais d'avoir le plus d'actifs possible qui ont le plus de valorisation possible, donc de valeur potentielle à la revente, valorisation, et qui produisent le plus de cash flow possible. Il faut voir ça comme un jeu, tu vois. C'est Jay-Z, je crois, quand tu lui as demandé combien tu gagnes et qu'est-ce qui te rapporte ton argent, le mec savait même plus. Et il a fini par apprendre que c'était même plus sa musique qui lui rapportait le plus, tu vois. C'était ses activités à côté. C'est ça le but du jeu. C'est d'avoir plein de business qui te rapportent de l'argent et juste d'être bien, tu vois, d'avoir une tranche et d'accepter que, ouais, bah, les impôts te prennent. Mais d'ailleurs, c'est une vidéo que j'ai envoyée sur mon canal Telegram il n'y a pas longtemps. En fait, quand tu deviens assez haut placé, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat, tu as déjà fait tes, bah, déjà fait tes preuves, tu as déjà fait plusieurs business et tout, tu peux réduire drastiquement ton imposition. Et en fait, avoir plein de business qui te rapportent des sommes colossales et être imposé à 4%. C'est un truc que j'explique sur le canal Telegram, tu vois. Et il faut vraiment accepter juste que ce que tu gagnes, c'est pas ton argent et que c'est OK. C'est peut-être un petit peu trop poussé pour ton audience. Je sais pas à quel moment de leur aventure entrepreneuriale ils sont, pour la majorité. Mais peut-être que dans 2 ans, ils se souviendront de ce podcast, ils feront « Ah putain, mais c'est vrai qu'il en avait parlé ».
Ouais, yes. Ouais, bah écoute, y en a peut-être que ça parlera dès maintenant et sinon ça leur parlera un peu plus tard, mais en tout cas, c'est top de partager ce conseil-là. Eh ben, Manoa, ça fait déjà plus d'une heure là qu'on discute. On a déjà abordé pas mal de sujets. Il y a le petit rituel que j'aime bien faire avec les invités, que je t'en ai rapidement parlé. C'est un petit jeu, ça s'appelle le 2 vérités, 1 mensonge. Donc, en gros, bah, normalement, le jeu, c'est que t'as 3 anecdotes en stock. Il y en a 2 qui sont vraies, 1 qui est fausse. Et l'idée, c'est que tu me récites, tu me racontes ces 3 anecdotes et moi, j'essaye de trouver quel est le mensonge. Est-ce que tu as tes 3 anecdotes ou pas?
Bah écoute, tu m'avais envoyé un petit message pour me prévenir de ce petit rituel avant. Donc, j'ai préparé, j'ai fait mes devoirs. Donc, j'ai noté les 3 anecdotes. Alors, la première, c'est qu'on a failli porter plainte contre moi à 17 ans, lorsque j'avais 17 ans, car la fille d'un mec que je ne connaissais pas avait volé sa carte bancaire pour acheter un coaching. Les coachings qui, à l'époque, étaient un peu comme une sorte de magasin en ligne, en gros, où tu allais sur mon site, tu pouvais acheter un coaching comme ça, comme tu achètes une formation aujourd'hui.
Ok.
J'ai reçu une commande d'un coaching, donc j'ai immédiatement contacté le mec pour prendre rendez-vous, savoir quel créneau horaire il voulait. Et j'ai reçu en réponse un email de 25 lignes en mode « Ma fille a volé ma carte bancaire, elle a acheté, veuillez me rembourser immédiatement, je me suis déjà rapproché de mon avocat, avec l'avocat en copie, etc. »
Wow.
D'un vrai cabinet qui existait, etc. Et donc, voilà, première anecdote. Deuxième anecdote, j'ai perdu 2500 euros à 15 ans parce que j'ai commencé à devenir addict au casino en ligne. Et tu vas me dire, attends, mais casino en ligne à 15 ans, c'est pas possible. Et si, parce que c'était des skins CSGO. Je sais pas si tu as la référence. CSGO, c'est un jeu de tir extrêmement connu, qui est d'ailleurs numéro 1, je crois, en e-sport. Et je jouais énormément quand j'étais gamin. Et j'avais fait beaucoup, c'était mes premiers investissements, entre guillemets. Il y avait des skins dans le jeu, c'est-à-dire des apparences d'armes que tu pouvais acheter.
Ok.
Et j'en avais acheté énormément. Et en fait, il y avait des sites où tu n'avais pas besoin de carte d'identité, etc. Tu pouvais juste mettre tes skins. D'autres joueurs mettaient leurs skins. Et en fait, ça avait une valeur réelle. C'est-à-dire qu'il y avait des skins qui valaient 20 balles, 50 balles, même pour certains 800 balles. Et en fait, il y avait une roulette. C'est-à-dire que moi, si, imaginons, je mettais un skin à 20 balles et que toi tu mettais un skin à 80 balles et que c'était une roulette, eh bien t'avais 80% de chance de gagner les deux et moi j'avais 20% de chance de repartir avec les 2 skins. Et j'ai perdu au total 2500 euros avec ça. Quand j'ai découvert justement ce système, parce que je jouais beaucoup, que j'avais beaucoup de skins et que je suis tombé là-dedans.
Mm-hmm.
Troisième anecdote, mon premier business 100% digital avec absolument rien de physique, à part Minecraft et le montage vidéo dont je t'ai parlé en début de podcast, c'était déjà en rapport avec l'industrie type OnlyFans, car j'apportais des abonnés à des filles sur Snap, sur Instagram, qui vendaient des photos d'elles. Donc, quand j'avais 16-17 ans.
Ah là là, c'est dur. Je te connais pas assez. Les 3, ça pourrait être vrai.
Merci beaucoup.
Tu m'as bien détaillé les deux premières. Allez, on va dire que la 3, là, le business à la fin, c'est, je vais dire que c'est le mensonge.
Eh bien non, j'ai fait exprès justement de détailler les deux premiers pour que tu penses que c'était la troisième.
Ah
La
là
troisième est totalement
là.
vraie. C'est la deuxième. C'était le casino en ligne.
Ah, j'ai hésité parce que c'est vrai que tu l'as bien détaillé,
Non,
t'en as
mais
bien parlé.
parce que je connais vraiment puisque j'y jouais. J'y jouais même pas mal, mais j'ai pas perdu 2500 euros. J'avais pas 2500 euros à cette époque-là. Et j'avais même plutôt gagné un peu d'argent grâce à ça. Parce que j'étais plutôt bon dans les probas, etc. Savoir quel skin allait tomber. Mais je suis pas devenu addict à ça. Et j'ai pas perdu autant d'argent du tout. Mais les deux autres, du coup, la plainte et le business type OnlyFans, c'était totalement vrai. C'est un truc dont j'en ai jamais parlé en ligne d'ailleurs.
Eh ben écoute, en tout cas, merci pour ces anecdotes et merci d'être passé sur ce podcast, Manoa. C'était cool de découvrir un peu ton univers et de discuter avec toi. Et je te souhaite un très bon séminaire.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si t'as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. À très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.